Bonjour et bienvenue dans Tapante.info, le podcast. Tapante est un blog qui explore les innovations technologiques et les jeux vidéo depuis 2005 et ce podcast partage le même objectif, mélanger tech et curiosité. Épisode 21 de la saison 3, c'est parti. 8 secondes. Quoi, 8 secondes? Oui, c'est le temps moyen d'attention totale pour le contenu en ligne versus 12 secondes en 2000. C'est donc la preuve qu'il faut être assez pertinent dans le contenu éditorial ou publicitaire sur Internet puisque les gens ne vont pas vraiment avoir un gros focus. Donc voilà, c'est un bon learning et sachez-le. Voilà, 8 simples petites secondes et ça nous vient du Digital Report Hootsuite We Are Social de l'octobre 2020. Vous en avez certainement entendu parler, le gouvernement français vient de débloquer 1,8 milliard d'euros pour financer la stratégie quantique de la France. Alors, le quantique, c'est extrêmement compliqué. Je ne vais pas avoir la prétention de vous expliquer ce qu'est un ordinateur quantique ici, maintenant et rapidement. Il faut juste savoir que c'est des ordinateurs qui permettent une nouvelle typologie de calcul. Aujourd'hui, nos ordinateurs sont binaires. Ils calculent, ils marchent sur des 0 et des 1. Et avec le quantique, on peut faire beaucoup, beaucoup plus de calculs. Tout ce qui se passe entre le 0 et 1 est envisageable. Bon, en gros, c'est surtout, ça permet d'accélérer beaucoup, beaucoup, beaucoup de calculs et d'amener beaucoup de solutions dans le futur. Et de faire cohabiter le binaire et le quantique. Bon, bref, tout ça pour dire que notre gouvernement a décidé de dépenser 430 millions dans la création de l'ordinateur quantique universel, donc c'est vraiment l'ordinateur en lui-même, l'ordinateur quantique. Il y aura aussi de l'argent qui va être dédié pour créer des simulateurs quantiques, donc ça c'est plutôt des ordinateurs binaires, mais qui vont être capables d'exécuter des calculs quantiques. On va aussi avoir bien sûr des choses autour de la communication quantique, des capteurs quantiques, de la cryptographie post-quantique. Et enfin, aussi, tout ce qui est autour des connexions, les lasers, la cryogénie, enfin tout ce qui va être autour du quantique. Et enfin, il y a une dernière enveloppe de 400 millions qui, elle, est dédiée à l'écosystème, aux industriels et aux startups, quand même, parce qu'il n'y a pas de raison. Pour rappel, l'écosystème français du quantique est réparti entre Paris, Saclay et Grenoble. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, on ne sait pas trop, mais en fait, aujourd'hui, le budget alloué à cette recherche-là, qui est fondamentale hein, pour la France dans le futur, c'est 60 millions d'euros par an, et on va passer à 140 millions. Donc c'est plutôt cool. Si on se compare un peu à nos voisins, le Royaume-Uni avait déjà lancé lui un programme de 1 milliard, mais qui court de 2014 à 2025, donc autant vous dire qu'ils sont pas mal avancés. L'Allemagne, elle aussi, est autour de 800 millions d'euros. Et bien sûr, si on va du côté de nos amis chinois, on débloque un peu la tirelire, et c'est 10 milliards de dollars qui ont été investis en 2017 hein, pour accélérer le quantique. Bien sûr, là je parle du public. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui dans le monde, les leaders dans la recherche, c'est quand même IBM ou Google, ou une société qui s'appelle Honeywell. Du côté de la Chine, Alibaba aussi a investi beaucoup, beaucoup d'argent dans ce sujet-là. Mais avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le retour de Jack Ma, enfin le retour des parts, certainement qu'ils vont récupérer une partie de la recherche d'Alibaba. Bref, c'est un sujet énorme, hyper important, un peu compliqué à cerner. Il faut juste se dire que c'est un peu le futur de l'informatique. Allez, pour rester en France, un appel d'offres qui avait été lancé par l'aéroport de Paris, la RATP, et Choose Paris, un organisme de la mairie qui est là pour booster un petit peu la compétitivité de notre ville, a sélectionné 30 entreprises spécialisées dans la mobilité urbaine et aérienne. Et en fait, de quoi on parle ? On parle vraiment des taxis volants du futur qui vont être testés dès juin 2021 sur l'aérodrome de Pontoise. Donc on est vraiment dans un futur très 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 proche. Alors il y a bien sûr des industriels tels que Airbus ou Dassault qui vont participer. Et vraiment le but de tout ça, c'est de faire des tests suffisamment avancés pour être prêt pour tester sur du public aux Jeux Olympiques en 2024 avec un objectif d'une offre commerciale qui arriverait pour 2030. Vous voyez, on est vraiment pas loin. Les premières sociétés, c'est Vélocopter qui va pouvoir commencer et qui va pouvoir tester. Leur modèle est un espèce de gros drone où on peut mettre plusieurs personnes, deux je crois sans dire de bêtises. Et donc c'est eux qui vont pouvoir ouvrir le bal des VTOL, les VTOL, pour Vertical Takeoff Landing. Voilà, Vertical Takeoff Landing. Donc voilà, donc c'est le futur très très proche. Hein. Et bien sûr, la plus grosse problématique, il y a deux grosses problématiques, la problématique technique évidemment, et aussi la problématique réglementaire. Forcément, tout ce consortium travaille avec la Direction Générale de l'Aviation Civile pour avoir les bonnes autorisations. Voilà, encore un sujet à suivre, mais on va vite voir passer des drones habités en région parisienne. Parler des drones, mais ceux-là ils sont beaucoup plus petits. On apprend que aux États-Unis, les premiers vols de drones autonomes ont été autorisés. Alors, c'est ni Alphabet, donc la société de Google, ni Amazon qui aura le droit de faire les premiers vrais tests, mais American Robotics, donc la FEAA, hein, donc la Federal Aviation Administration, a autorisé le vol de ces petits drones. Alors, avec des règles, hein, il faudra qu'ils volent en dessous des 120 mètres, pas plus de 10 kg de charge utile. Mais en tout cas, au Kansas, au Massachusetts et dans le Nevada, les gens vont pouvoir voir passer des drones transporter des produits, donc moins de 10 kg, donc ça reste limité. Dans un premier temps, ça va être dédié à l'industrie et aussi aux exploitations agricoles. Mais bien sûr, l'idée, c'est vraiment d'avoir un dispositif qui soit fiable. Alors, la FIA a bien sûr exigé qu'il y ait un pilote qui soit pas loin pour prendre des décisions au cas où, que tout soit beaucoup et très bien monitoré, que tous les protocoles de sécurité pour éviter les autres objets volants soient bien sûr au top au mieux de ce qui se fait. Mais bref, voilà, ça commence. On va peut-être pouvoir se faire livrer nos colis bientôt par drone. Un petit mouvement du côté de Twitter qui a décidé que pour les comptes Twitter de la Maison-Blanche et des politiques de la Maison-Blanche, il allait changer la règle. Jusqu'à présent, le président et la Maison-Blanche récupéraient le compte du précédent, donc le @Flotus. Et le @Plotus, pardon, pour le President of the United States, et Flotus pour the First Lady, and VP pour vice-président et White House, vous avez compris. Et donc désormais, en fait, les comptes vont être archivés. Donc pour Trump, on va avoir un @POTUS45 et pour Obama, un @POTUS44. Enfin voilà, donc une nouvelle règle qui ne va pas s'appliquer partout, hein, puisque YouTube, par exemple, a décidé de juste transférer les comptes comme il l'a toujours fait. Bien sûr, Twitter réagit à la censure qu'il a été obligé de mettre en place ces derniers temps. Mais voilà, le président va devoir recomposer sa base de followers et perdre les 35 millions d'abonnés qui étaient sur le compte Twitter du président des États-Unis. Petite anecdote, Kamala Harris, la vice-présidente, qui a décidé de transformer son compte à elle en @VP. Donc elle démarre avec les 5,3 millions d'abonnés qu'elle avait sur son compte. Par contre, on ignore de comment ça va se passer le jour où elle sera plus VP. Est-ce qu'ils vont lui rendre son compte ou est-ce qu'elle aura perdu tous ses followers ? Je pense qu'elle aura perdu tous ses followers. Une nouvelle startup qui s'appelle Beeper vient de sortir et elle met un peu tout le monde en émoi. Je parle depuis plusieurs programmes de ce qui se passe autour des applications de messagerie avec le débat, faut-il quitter ou pas WhatsApp, faut-il sauter sur Telegram ou Signal. Mais Beeper propose de ne pas faire de choix et de créer une application qui marche partout, mais notamment sur Android et iPhone et iOS, qui va permettre d'allier jusqu'à 15 messageries, outils de messagerie. Donc bien sûr, on retrouve WhatsApp, Signal ou Telegram, et on en retrouve aussi Slack, Twitter, Discord, Instagram, Facebook, enfin bref, toutes les messageries aujourd'hui qu'on retrouve. Il y a même Apple iMessage, mais apparemment c'est un petit peu un hack, un truc un peu limite qu'ils ont fait, mais bon, en tout cas, ça existe. L'ancien fondateur d'une société qui avait fait pas mal parler d'elle, hein, qui était une des smartwatches appelée Pebble, qui avait notamment percé grâce à un crowdfunding. Bon, bref, c'est pour ça aussi qu'il a l'attention. Donc, ce service est lancé. Par contre, il faudra compter $10 par mois pour la souscription. Je pense que ça vaut le coup de regarder ce bon vieux Trillian, si vous êtes intéressé, qui était sorti en l'an 2000 et qui est toujours aujourd'hui disponible avec peut-être moins de fonctionnalités. Faisons un petit tour du côté du hardware, et pour faire suite au CES de la semaine dernière, la société StoreDot, qui n'était pas donc au CES, a annoncé mettre à disposition des industriels et des partenaires qui le souhaitaient les premiers prototypes de sa batterie. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que StoreDot a inventé une technologie, un partenariat avec Daimler, BP, TDK et Samsung, une technologie qui permet de recharger les batteries extrêmement rapide. Et leur objectif, accrochez-vous bien, c'est de mettre sur le marché en 2025 une batterie qui serait rechargeable en 5 minutes et qui permettrait à un véhicule de parcourir 160 km. Ouais, 5 minutes, 160 km, on est quand même sur quelque chose de assez cool et ça pourrait être vraiment un des gros freins à la voiture électrique qui pourrait sauter dans ces cas-là. Allez, un petit pour parler rumeurs, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de belles rumeurs. Il semblerait que Apple soit sur le point de sortir un casque de réalité virtuelle. On parle de quelque chose qui arriverait plutôt l'année prochaine, plutôt très haut de gamme, hein, dans la série de ce que fait Apple, avec bien sûr équipé de son nouveau processeur M1 là, qui équipe les derniers laptops dont je vous ai déjà parlé aussi. On n'a pas beaucoup d'infos, on sait juste que ça fait longtemps qu'on attend que Apple arrive sur le marché de la réalité augmentée avec des lunettes. Donc dans le rapport qui est dans la fuite, les lunettes arriveraient, mais elles, beaucoup plus tard. même si le casque de VR, lui, va avoir quelques fonctions de réalité augmentée, il serait vraiment focus sur la réalité virtuelle. On n'en sait pas plus, c'est intéressant. On pense tous que c'est un domaine qui fluctue en intérêt avec des innovations qui ne sont pas toujours consistantes ou qui ne sont pas toujours reconnues. On sait que Facebook Oculus domine le marché avec un produit qui est tout en un aujourd'hui, qui permet quand même l'Oculus Quest 2, qui permet de un peu tout faire dans les 350-400 €. Voilà, faut voir ce que Apple va apporter aussi dans l'expérience, puisque c'est souvent ça qui fait la différence. On finit ce programme un peu comme d'habitude avec un petit peu de jeux vidéo, et cette année c'est les 25 ans de Resident Evil. Est-ce que je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous n'êtes pas du tout joueur, peut-être pas, mais c'est un des premiers jeux qui a popularisé le survival horror, c'est-à-dire cette idée d'avoir un petit peu peur derrière son écran. Les premiers jeux se jouaient sur le fait qu'on ne voyait pas exactement ce qui allait se passer derrière un mur. Les nouveaux sont beaucoup plus graphiques et plus effrayants et voire gore. En tout cas, voilà, ça fait 25 ans que cette licence évolue de console en console et qui est devenue un objet pop culture. Il y a des films au cinéma, il y a des jouets et bientôt une série sur Netflix. Donc pour les 25 ans, c'est ce qu'ils ont annoncé, hein, l'arrivée de la série sur Netflix. Et puis deux nouveaux jeux, le Resident Evil 8, qui fait vraiment, vraiment très, très peur, et un petit jeu en multi. Enfin, en tout cas, voilà, c'était un petit clin d'œil pour tous les joueurs qui connaissent cette série. Ça fait déjà 25 ans que ça a commencé. J'espère que ce programme vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, à venir sur les réseaux sociaux, bref, à échanger avec moi. Ça sera toujours un grand plaisir. Au revoir.